Voilà, je suis vraiment content aussi d'être avec vous. On n'était jamais venu dans les églises de la région du Sud-Ouest. Donc voilà, ben, le Seigneur a permis que on puisse vous voir, venir vous voir et partager donc ces quelques messages avec vous. Donc le thème central, c'était donc le tabernacle. Plus exactement, j'avais dit à l'époque, ça serait des expériences autour du livre de l'Exode, bien entendu, en particulier donc le tabernacle. Ce soir, on ne va pas parler spécialement du tabernacle, on va donc partager d'abord la rencontre entre un homme et son Dieu. D'ailleurs, le livre de l'Exode, c'est le nom français, Exode. Le nom juif, c'est les noms. Parce qu'effectivement, quand on lit le livre de l'Exode, ça commence par « voici les noms ». Donc, pour le peuple juif, quand vous parlez du livre de l'Exode, qu'on ne sait pas ce que c'est. Il faut lui parler du livre des noms. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va voir aujourd'hui, ce soir plus exactement, quelques enseignements concernant donc ce livre de l'Exode, et particulièrement ce soir, la rencontre entre un homme et Dieu. Et on va donc voir comment cette rencontre a eu lieu entre Moïse et Dieu. Voilà. Alors, je crois que vous connaissez tous l'histoire. Je ne veux pas passer trop de temps sur l'histoire elle-même. Je pense que vous avez tous entendu parler que Moïse, donc, il y a 40 ans, lorsqu'il prend la défense d'un Hébreu, qui était Moïse. Moïse, ça veut dire tirer d'eux. Effectivement, c'est un jeune juif que les parents ne voulaient pas livrer à la mort et qu'ils avaient mis donc dans ce berceau de jonc enduit de poids et mis sur la rivière, sur le Nil, espérant que quelqu'un le prendrait, le sauverait. Et vous savez, c'est ce qui s'est passé. La fille de Pharaon, venant se baigner, a découvert cet enfant et puis elle a demandé à sa sœur qui était là derrière elle de lui trouver une nourrice. Donc ainsi Moïse a été dans sa propre famille pendant un certain temps, puis ensuite est donc venu à la cour du Pharaon, et il a donc appris tout ce qui était de l'art de l'Égypte, dans les croyances aussi, dans tout ce qui était les recherches intellectuelles de ce peuple. Mais un jour il voit donc un responsable des corvées, puisque le peuple juif avait été mis sous des corvées, frapper un des siens. Et il intervient, il tape cet Égyptien et le tue et le cache dans le sable, pensant que son geste n'a pas été vu. Et puis, plus tard, il voit deux de ses congénères, donc deux juifs qui se querellent entre eux, et il veut arrêter cette dispute, et l'un d'entre eux va lui dire « Mais qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Autrement dit, déjà, je pense que dans la pensée de cet Égyptien, il avait compris que ce Moïse était, bien sûr, du peuple hébreu, c'est évident, mais en plus de ça, qu'il avait peut-être le désir d'avoir une autorité sur le peuple. Qui t'a établi juge et chef sur nous? Alors, cette autorité, bien malheureusement, va tomber très vite par terre, puisque, se sentant découvert, il va devoir s'enfuir, et Pharaon veut le tuer. Mais donc il va partir pendant 40 ans dans ce désert de Madian où il va être berger. Je pense que vous connaissez l'histoire, je fais un peu vite, mais je ne veux pas que ce soit trop long à ce niveau-là. Donc pendant 40 ans, il va être berger. On voit que tout ce qu'il a appris pendant ses 40 premières années de sa vie au contact du peuple égyptien, mais il va le perdre complètement. Et c'est un autre homme qui va un jour s'apercevoir de quelque chose d'étonnant, un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas, et qui brûle, et qui brûle, et qui brûle. Et Moïse va donc vouloir aller s'approcher pour comprendre quel est ce phénomène, et il va s'approcher, et là il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. Et on peut lire dans la Bible, dans le livre de l'Exode, quelques passages concernant donc cette rencontre entre un homme et son Dieu. Donc c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 2 et au chapitre 3. On va lire donc au chapitre 3, les versets 1 à 12. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson, et lui dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc voici cette rencontre extraordinaire. On voit que Dieu s'est souvenu du zèle de Moïse. Bon, c'est sûr que Jacques nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Mais, déjà, en prenant pitié de son peuple, n'est-il pas en accord avec Dieu, qui lui aussi a miséricorde? Et donc, Dieu va se servir de Moïse. Et c'est une rencontre extraordinaire que Moïse va faire en rencontrant Dieu à cet endroit. Et la Bible nous parle de beaucoup de rencontres quelquefois assez fortes. Et j'ai remarqué que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, Dieu est un Dieu de rencontres. Dieu, et on le verra plus tard dans le tabernacle, Dieu a la pensée continuelle de vouloir avoir une relation avec l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours profondément touché. Je ne connais pas toutes les religions, j'ai essayé de comprendre un peu comment fonctionnaient toutes les religions qui sont sur la face de la terre, elles sont très nombreuses. Dans toutes les religions, le Dieu de ces religions est totalement inaccessible. Regardez l'islam. Il n'y a aucune relation entre un musulman et Allah. Aucune. Il fait des choses d'une manière automatique qu'on lui a dit de faire, c'est tout. Mais il n'a aucune connaissance réelle de son Dieu. Alors que le Dieu de la Bible est un Dieu totalement différent, qui veut avoir avec l'homme une relation personnelle, une relation intime. Et c'est ce qui va se passer dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et dans l'évangile de Jean en particulier, Dieu fait homme, Christ, va avoir une douzaine d'entretiens avec des hommes et des femmes, et on voit quel plaisir il a à pouvoir discuter avec les uns les autres. Alors certaines de ces rencontres seront très négatives. Vous connaissez la rencontre entre le Christ et Pilate, par exemple, ou alors avec les Juifs, qui ne veulent pas venir à lui, nous dit-il, parce qu'ils ne veulent pas avoir la vie. Mais dans ces rencontres que j'ai relues un peu, j'ai remarqué que ceux qui sont en face du Christ sont souvent décontenancés, déstabilisé, un peu comme Moïse, quelquefois affligé. Il existe toujours une certaine forme, je mets en des guillemets, de violence, de celui pourtant qui est plein de tendresse, entre lui, le Christ, et celui à qui il parle. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 31, il est dit que le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Que ce soit clair, il n'y a pas dans la pensée de Dieu le désir d'affliger pour le plaisir d'affliger. Mais quelquefois, comme pour Moïse et comme beaucoup de ses rencontres, la fiction, la remise en cause de notre propre personne est absolument nécessaire pour qu'un dialogue puisse se faire. La violence, des exemples très forts comme celle de Jacob, quand il rencontre Dieu, dans Genèse 32, vous connaissez, je crois, cette histoire, je relis, dans Genèse 32, 24, il est dit, l'ange de l'Éternel, exactement comme pour ici Moïse, lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Qu'est-ce qui se passe si Jacob ne laisse pas aller l'ange de l'Éternel? Eh bien, il mourra. Et c'est pour ça que l'ange de l'Éternel lui dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Exactement comme quand Moïse se cache quand il entend que celui qui lui parle, eh bien, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Ah, ce Jacob. Fantastique cet homme. Il préfère mourir plutôt que de lâcher la bénédiction. Et pourtant l'ange, juste avant, lui a démis la jambe pour qu'il ne puisse plus se battre. Mais Jacob est un tenace. Jacob ne supporte pas que la bénédiction que Dieu veut lui donner lui échappe. « Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il lui répondit, « Jacob. » Il lui dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » C'est pas que l'ange était plus faible, mais la foi de Jacob était telle que l'ange de l'Éternel l'a béni. « Car tu as lutté avec Dieu et des hommes, tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Comme s'il ne le connaissait pas. Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit. Quelle violence! Mais dans le bon sens du terme. Quel bon sens du terme. Pierre, remarquez, Pierre est un peu dans le Nouveau Testament, l'équivalent d'un peu d'un Jacob dans l'Ancien Testament. Pierre, plusieurs fois, au moins dans trois épisodes, il y a une violence dans la rencontre. Dans Luc 5,8, juste après la pêche miraculeuse, quand il dit cela, donc cette pêche miraculeuse, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » La rencontre, entre la première rencontre qui a lieu entre Pierre et le Christ a été très très forte. Ensuite, dans Matthieu 16, verset 23, juste au moment où Pierre a reconnu que celui qui était en face de lui était bien le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que suite à cette déclaration, le Christ l'est béni en lui disant qu'il aurait une tâche particulière sur cette terre, juste après, quand le Christ dit qu'il faut qu'il aille à Jérusalem pour souffrir, mourir, ressusciter, Pierre ne peut l'accepter. Et lui dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et vous connaissez comment le Christ, juste après ces moments de bénédiction, va le reprendre. Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Quelle violence! C'est extraordinaire parce que quand on parle du Seigneur, on ne peut pas citer de personne plus douce, plus tendre. C'est Paul qui nous dit la tendresse de Christ. Et pourtant, dans ces rencontres, quelle violence! Et puis cette dernière rencontre, à la fin de l'évangile de Jean, lorsque le Christ lui dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Et puis il lui dit pour la troisième fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que le Christ lui avait dit pour la troisième fois « M'aimes-tu » Il lui répondit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit « Paix mes brebis. » Il y avait un compte à régler entre Christ et Pierre. Et ce compte s'est réglé là. Et on sait que Simon-Pierre, d'ailleurs vous avez marqué qu'il n'est pas dit Pierre, pardon, mais Simon, fils de Jonas, eh bien, a accepté, effectivement, de dire, je n'ai aucune, merci, autorité en moi-même, mais tu sais toute chose. Tu sais toute chose. La violence de la rencontre entre Dieu et Saul de Tarse. Acte 9, 3. Il était en chemin, vous savez, Saul de Tarse, en approchant de Damas, respirant la colère contre les chrétiens, quand soudain une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi entre les deux, pardon, et entre toi, entre dans la ville, et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Quelle violence ! Excusez-moi. Encore dans cette rencontre. Alors, bien sûr, on peut dire Jacob, Pierre, Paul, c'était des personnalités très fortes. Il fallait donc un traitement particulièrement en accord. Mais quand on regarde, il en est de même avec les plus tendres, les personnes qui semblent pleines de douceur. La violence de la rencontre entre Dieu et Nicodème. Nicodème, il est pharisien. Il est chef des Juifs. Il est membre du Sanhédrin. Il est docteur d'Israël. Nicodème, quand vous lisez l'évangile de Jean, vous verrez qu'à chaque fois qu'on parle de lui, il suit un petit détail. Celui qui vient de nuit voir Jésus. À chaque fois qu'on parle de Nicodème, il y a cet appendice, celui qui vient de nuit voir Jésus. Mais Nicodème, qui est pourtant quelqu'un d'élevé dans la religion juive, il va être complètement dépassé, chamboulé par cette déclaration du Seigneur, il faut que tu naisses de nouveau. Il ne comprend pas. Et il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ? Tout son système religieux s'écroule. Terminé. Il n'y a plus rien. Et à chaque fois, le Seigneur fait ce genre de choses. La Samaritaine. C'est une rencontre, quand on lit dans un premier temps, qu'on trouve charmante. Le Seigneur est plein de douceur, plein de gentillesse. Eh bien, pas du tout. Premier choc. Choc communautariste. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Choc communautariste. Deux. Choc concernant sa vie personnelle. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Vous aimeriez qu'on vous parle comme ça ? Vous dites, ben dis donc, Seigneur, il n'y va pas de main morte. Mais ce n'est pas tout. Choc religieux et cultuel. La femme lui dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ? Et puis, un peu plus loin, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem ? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Pauvre femme, rien ne va bien. Ta vie personnelle ? Sa vie de samaritaine, donc habitant la Samarie, sa vie religieuse, tout est remis à zéro. Tout est remis à zéro. Et pourtant, je crois que cette femme, c'est la première évangéliste du Nouveau Testament, puisque elle va aller ensuite raconter aux gens de son village tout ce que le Seigneur a fait pour elle. Et je pense que cette Samaritaine correspond à ce que le Seigneur dit dans Matthieu 5, 1, « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit ». Alors ça ne veut pas dire, hein, vous savez que la traduction en français porte à rire, puisqu'on peut croire que ce sont les gens qui ont un peu simple d'esprit, non. Le mot grec c'est « ptokoi », ça veut dire les mendiants, ceux qui savent qu'ils n'ont rien, ceux qui sont pauvres, qui savent qu'ils sont pauvres. Et cette femme, elle se retrouve dans un état de pauvreté absolue, elle n'a plus rien. Mais Nicodème, c'était pareil. Et Paul, c'était pareil. Et puis tous, c'est pareil. Et Moïse, c'est pareil. Qui suis-je? Et puis il y a un exemple dans l'Ancien Testament qui est encore plus fort, je crois. C'est la rencontre entre Dieu et Job. Oh, vous me direz, il n'y a pas eu de rencontre. Non, Job a été simplement un terrain de bataille entre Dieu et Satan. Mais Dieu, qui sait qui est Jacob, a une confiance absolue, pardon, qui sait qui est Job, a une confiance absolue en Job, et il sait que, au travers de toutes ces difficultés, eh bien, Job va en sortir grandi. Donc, il est dit de Job qu'il était dans un pays, Dutz, un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous vous rendez compte un peu le témoignage concernant cet homme? Pas beaucoup de gens peuvent être comme lui, quelqu'un d'intègre, droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. On pourrait dire qu'on peut lui donner le bon Dieu sans confession. Et puis vous connaissez l'histoire de Job. Peu à peu, les difficultés vont arriver, telles qu'à un moment il dit qu'il va maudire, non pas Dieu, comme lui dit sa femme de le faire, mais il va maudire le jour où il est né, tellement les épreuves qui lui tombent dessus sont terribles. Et cet homme, à un moment, eh bien, il va connaître la mort à lui-même, à travers de son infortune, et puis de ses amis qui le persécutent en lui disant « Si tu es frappé de Dieu, c'est à cause de tes péchés. » Et Job va comprendre que le problème, ce n'est pas les péchés qu'il fait, mais c'est sa nature, pécheresse, aux yeux de Dieu. Il va dire dans Job 14, 1, « L'homme naît de la femme. Sa vie est courte, sans cesse agitée, il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui, donc l'homme, que tu, toi Dieu, as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Mais comment d'un être souillé, je l'ai dit tout à l'heure, cet homme qui se disait, que l'on disait, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal, réalise d'un seul coup qu'il est un être pécheur, qu'un être qui n'est pas juste. Et il dit, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Quel cri de désespoir devant cette découverte terrible de ce qu'il est vraiment aux yeux de Dieu. Et ce qu'il demande donc, c'est un changement de nature. Et puis la réponse de la foi en Dieu, quelques versets plus loin, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Tous les entretiens que Dieu, dans l'Ancien Testament, ou que le Christ, dans le Nouveau Testament, ont pu avoir, n'avaient qu'un but. Faire réaliser à l'être qui était en face de lui sa nudité et sa faiblesse. Je l'ai lu tout à l'heure, ce n'est pas par plaisir que Dieu afflige le Fils de l'homme. Dans nos milieux, on parle souvent d'une conviction de péché. C'est ça. c'est de comprendre, quand on est face à Dieu, ce que l'on est vraiment. Et si vous regardez tous les exemples de ces relations qu'il peut y avoir, de ces, j'allais dire, confrontations, c'est pas juste, mais ces face à face qu'il peut y avoir entre Dieu et l'homme, c'est toujours la même chose. Dieu ne cesse de nous faire comprendre ce que nous sommes, non pas pour nous affliger, pour nous détruire, mais que le salut nous devienne absolument nécessaire. C'est ce qui s'est passé pour Job. Est-ce que d'un homme impur, il peut sortir quelque chose de pur? Et puis, alors que c'est un homme qui a vécu, on pense, à l'époque d'Abraham, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Autrement dit, ce terrain de bataille qui a été Job, vous connaissez l'histoire, hein, entre Dieu et Satan, eh bien on voit ici que c'est Dieu qui est le vainqueur. Parce que dans tout état de cause, Job s'est tourné vers qui? Mais vers le Rédempteur. Et la Samaritaine s'est tournée vers qui? Mais vers le Rédempteur. Tous ces hommes et toutes ces femmes ont compris qu'ils avaient besoin du salut. Qu'ils avaient besoin que leur propre nature, qu'ils pensaient à être à un certain niveau spirituel, comme c'était le cas de Nicodème, ou même de Job, ou même de Paul, qui croyait être un homme très bien, il le dit dans l'épître aux Colossiens. Eh bien, ils se rendront compte que non, ce n'est pas le cas du tout. Tous ces hommes se sont retrouvés, ou toutes ces femmes, dépouillées devant le Seigneur, afin que le Seigneur puisse les habiller. Et il y avait un frère que j'aime beaucoup qui disait, qui a donné des messages, qui disait que nous avons besoin d'être vaincus par Dieu pour pouvoir être vainqueurs avec Dieu. Et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Jamais une rencontre avec Dieu n'est sans conséquence. Et si cette rencontre laisse des traces, et ça a été le cas, vous savez, pour Jacob, physiquement, hein, ou pour Paul, qui avait certainement, suite à cet aveuglement sur le terrain, le chemin de Damas, eh bien, avait des problèmes de vue, si ça a laissé des traces dans nos vies, c'est pour notre salut. C'est pour notre salut. Revenons à notre récit du livre de l'Exode. On a oublié un peu Moïse dans l'histoire. On va revenir un peu à lui. Donc on voit que Moïse a une disponibilité pour aller voir ce qui se passe. Et puis c'est donc l'ange de l'Éternel, le Christ, c'est-à-dire qui lui parle, qui l'appelle. Et la première chose que Dieu lui dit, cette terre est sainte. C'est la première fois que dans la Bible paraît ce terme. On est donc dans le livre de l'Exode, hein, dans le livre de la Genèse, vous n'avez jamais ce mot. C'est dans le moment précis où Dieu se manifeste à Moïse qui va lui apprendre, qui va lui révéler quelque chose de fondamental. La première leçon que Dieu va donner à Moïse, c'est concernant sa sainteté. Et la sainteté, c'est aujourd'hui ce que l'Église de Christ en particulier doit découvrir. Tout lieu où Dieu réside est saint. Pas simplement une terre, il y a des milliers d'années, là-bas en Égypte, mais également l'Église. L'Église est un lieu saint. Et c'est pour ça que chaque frère, chaque sœur doit avoir envers l'autre une attitude qui convient. En particulier, cette séparation d'avec le monde. Dieu exige la sainteté. Il dit, vous serez saints comme je suis saint. Et là, Moïse ne connaissait pas ce terme. Mais il le découvre. Et il retire ses sandales. Il obéit. Et puis donc, Dieu va se présenter à Moïse et il va lui rappeler cette promesse. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu qui veille sur mon peuple et qui veut le délivrer. Et Moïse, quand il voit ça, on l'a vu tout à l'heure, bien, immédiatement une réaction se cache parce qu'il a peur verset 6, Moïse se cacha de visage car il craignait de regarder Dieu, car celui qui regarde Dieu, ben c'est fini pour lui. On l'a vu également pour Jacob. Plus tard, au verset 14, Dieu donne un nouveau nom. Je suis. Quand il dit, mais comment t'appelles-tu et quel nom vais-je donner aux autres? Eh bien, tu diras, je suis, m'a rencontré. Eyé Hacher Eyé, je suis celui qui suis. Le tétragramme sacré qui a été traduit dans nos vies par l'éternel. À chaque fois que vous avez le mot l'éternel dans votre Bible, eh bien, sachez que c'est donc ce tétragramme sacré qui est imprononçable pour les juifs, mais que dans nos Bibles, on a donc traduit par l'éternel. Et l'homme qui a traduit la Bible en français et qui a mis ce mot l'éternel, eh bien, l'a payé de sa vie. Oui, il l'a payé de sa vie parce qu'on ne voulait pas à l'époque que la Bible soit traduite en français. Eh bien, il l'a quand même fait, mais il l'a payé de sa vie. Il a été empoisonné. Je ne me rappelle plus de son nom, je suis désolé. Olivetan. Voilà, donc, ici, l'ange va lui dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et je connais ses douleurs. Et au verset 8, je suis descendu. Et ça me rappelle l'histoire, enfin, ça rappelle l'attitude du Christ. Quand il a vu notre misère à nous aussi, eh bien, il est descendu afin de nous retirer de l'Égypte. Et à partir de ce moment-là, toutes les personnes que nous avons vues, tout au moins ces rencontres avec le Christ, auront une mission. Et c'est là qu'il ne faut pas confondre. Souvent, on veut servir le Seigneur, c'est très bien, hein, je vous encourage à le faire, mais sans avoir d'abord découvert qui il était. Et ça, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Servir le Seigneur ne peut se concevoir que lorsque j'ai compris qui il était. Sinon, je vais faire de grosses bêtises. Je risque de faire de grosses bêtises et faire même des fois des dégâts énormes. D'abord, découvrir la personne de Dieu. Regardez Paul. C'est quand il a découvert qui était le Christ, celui qu'il persécutait, qu'alors, après, le Christ lui dit, va faire ceci dans la ville, etc., etc. Il faut d'abord avoir eu cette rencontre. Et lorsque Moïse lui dit ici, mais qui suis-je? Parce que ce brillant Égyptien, fils de la fille de Pharaon, était nu et dépouillé devant le Seigneur. Eh bien, le Seigneur lui dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et là, je pense que tous ceux qui vont servir le Seigneur, quand ils disent, quand ils voient cette parole, je serai avec toi, ben, pense à Matthieu 28, n'est-ce pas, où le Christ dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le service, une fois que nous avons été dépouillés de nous-mêmes, de nos a priori, de nos pensées personnelles, etc., qui sont souvent fausses, avez-vous rencontré le Christ? Pas simplement en tant que sauveur, en tant que Seigneur, en tant que celui qui a une totale autorité, comme il l'a eu sur ces hommes et ces femmes qu'on a étudiés, dont on a étudié un peu la vie tout à l'heure. Dans Jean 15, verset 16, il y a là quelque chose de merveilleux qui a été pour moi un grand encouragement dans ma vie chrétienne. Jean 15, verset 16. Je lirai un petit peu avant, verset 14, des paroles qui me semblent incroyables quand on sait de qui elles viennent. Vous êtes mes amis, dit le Christ, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas Moïse qui a choisi de servir l'ange de l'Éternel. C'est l'inverse. ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Quelle grâce de savoir que ce n'est pas moi qui ai choisi. Le Seigneur veut que nous le servions, mais c'est lui qui nous choisit pour tel ou tel ou tel service. Souvent, les jeunes chrétiens, quand ils découvrent le Seigneur, ils sont pleins de fou, pleins de joie, et ils veulent servir. Et souvent, ils cassent les verres, hein. C'est pas toujours très juste, hein. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que la seule chose que le Seigneur leur demande, c'est d'être disponible. Comme Moïse l'a été quand il a vu ce buisson qui ne se consumait pas, il a été voir et il a appris. Et là, ici, le Seigneur nous dit la même chose. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Et c'est pour ça que quand Moïse a compris que ce n'était pas lui qui dirigeait, mais que c'était celui qui l'avait envoyé, lui qui ne savait même plus parler, qui a contesté pendant un certain temps, disant « Non, pas moi, on voit plutôt mon frère, etc. etc. » Après, on le voit, peu à peu, qu'il prend de l'assurance, parce qu'il voit la puissance de Dieu au travers de ce qu'il peut faire. Et c'est pour ça que, pour nous, il est absolument nécessaire que nous rencontrions le Seigneur, au travers de ce qu'il est, de ce que nous sommes, afin que j'allais dire que notre cas soit réglé, il ne faut pas exagérer, mais disons que le Seigneur nous montre notre faiblesse, notre faiblesse, afin que lui soit tout, afin que ce soit lui qui nous dirige, afin que ce soit lui qui nous dise ce que nous avons à faire, et qu'ainsi nous puissions porter des fruits. Et on verra dans la suite comment le Seigneur a pu se servir de Moïse. Et puis le signe que Dieu va donner à Moïse, c'est de servir Dieu dans le désert. C'est étonnant cette phrase. Et voici le signe, c'est de me servir dans le désert. C'était pas de se servir, et on verra peut-être à quel point le peuple d'Israël va vouloir se servir de Dieu, et non pas servir Dieu, et combien ça sera malheureusement une catastrophe un peu plus tard. Voilà, chers amis, je voulais pas être trop long ce soir. Simplement, ce que je voudrais que l'on se rappelle de ce message, c'est cette nécessité impérieuse que nous avons de rencontrer le Seigneur, afin que nous soyons propres à toute bonne œuvre. Sinon, ça n'ira pas. Et je l'ai dit tout à l'heure, cette rencontre est quelquefois violente, même avec les plus tendres, comme cette Samaritaine ou comme Nicodème. C'est un personnage merveilleux, Nicodème. Moi, j'aime beaucoup Nicodème. Je sais qu'un jour, je le verrai dans les cieux, et on discutera un moment ensemble, quoi. Ah ouais, ça va être super. Parce que j'aime bien, après, Nicodème, il va essayer au Sanhédrin de défendre le Christ, hein, en disant, mais est-il de notre coutume de ne pas entendre quelqu'un avant de le condamner? Bon, bien sûr, il ne peut pas faire grand-chose. Et puis après, je pense qu'il était avec Joseph d'Arimathée quand il a été prendre le corps du Christ, quoi. Et là, devant le Sanhédrin, il est tout nu. Parce que le fait d'aller prendre le corps d'un condamné, dans la loi juive, ça le condamnait, lui. Il va accepter, il va apporter 100 livres, je sais pas comment ça faisait énorme, 100 livres de parfum pour embaumer le corps du Christ. Et puis Nicodème, ce qui veut dire vainqueur du peuple, il a été vainqueur de lui-même déjà, c'est beaucoup, hein, avant d'être vainqueur d'un peuple. Il a été vainqueur de lui-même parce que il a été vaincu par Dieu. Parce que Nicodème, c'est pour ça que j'aime beaucoup, parce que quelquefois on est à cause de notre origine, etc., on se croit. Mais si le Seigneur nous humilie, nous affiche, c'est pas pour nous faire du mal. Mais c'est absolument nécessaire. Il faut être vidé par lui pour qu'on puisse être rempli par lui. Voilà, je voudrais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu le dis, c'est pas par plaisir que tu affliges nos cœurs, mais simplement pour nous montrer ce que nous sommes, afin de nous dépouiller de notre nature pervertie et de nous remplir de toi. Merci Seigneur, parce que toutes ces rencontres que tu as faites, que ce soit avec Moïse ou que ce soit avec d'autres, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, Seigneur, ce n'était pas pour faire du mal, mais c'était vraiment pour faire du bien. Merci parce que c'est l'étape absolument nécessaire avant de pouvoir te servir, non pas selon nos goûts, nos pensées, nos méthodes, nos systèmes, mais selon ce que toi tu veux. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu nous instruis, parce que tu nous montres tout ce que tu es, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, tu es généreux avec chacun d'entre nous. Tu veux vraiment utiliser chacun d'entre nous pour ta gloire, notre Dieu. Nous te prions que tu puisses le faire. Et Seigneur, donne-nous de comprendre que en dehors de toi, nous ne pouvons rien faire. Mais donne-nous aussi de comprendre qu'avec toi, nous pouvons tout faire, faire des choses merveilleuses pour ta gloire. Merci pour ton amour pour chacun d'entre nous. Amen.